Chaleureuse salutation de Fête des Tabernacles à vous, frères fidèles. J'ai lu un article l'autre jour qui parlait du nombre de personnes qui ont été tuées dans les guerres précédentes. Il est écrit qu'au cours des 3500 dernières années, il y a eu moins de 10% de cette période où l'humanité a été en paix, même relative. Au moins 108 millions de personnes ont été tuées au cours du siècle dernier, au cours du 20e siècle. Les estimations du nombre total de morts au cours de l'histoire de l'humanité s'élèvent jusqu'à 1,6 milliard, y compris les décès dus à la famine et aux maladies causées par la guerre. Pendant cette même période, il y a eu plus de 8000 traités de paix rompus. 8000! Pour nous qui sommes dans l'Église, nous sommes familiers avec ce que révèle Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Les êtres humains, des Babyloniens aux Perses, aux Grecs, aux Romains, aux Mongols, aux Chinois, aux Russes, aux Allemands. En fait, depuis Nimrod, dans les empires d'Afrique, puis d'Amérique centrale et du Nord, les humains ont toujours essayé d'établir la paix à leur manière dans l'histoire de l'humanité. Un ministre m'a dit un jour au Collège Ambassadeur dans les années 60 qu'il pensait que chaque groupe de personnes, à un moment ou un autre, avait eu l'occasion d'établir la paix mondiale en essayant de conquérir le monde. Il y a une chose intéressante à noter concernant notre époque plus récente. Nous connaissons l'histoire d'Adolf Hitler. Les gens pensent qu'il est pratiquement apparu tout d'un coup, comme une surprise. La vérité est qu'Adolf Hitler avait écrit un livre appelé « Mein Kampf ». Il l'a écrit en 1925 et c'est devenu un best-seller en 1933. Il y décrit comment il allait, lui, établir un nouveau monde, un troisième royaume ou troisième Reich. Dans notre brochure intitulée « Le merveilleux monde de demain, voici comment il sera », le docteur Meredith décrit comment sera réellement le vrai monde nouveau qui vient. Il écrit ceci « De nombreux politiciens et leaders éminents ont réalisé depuis longtemps que la seule véritable solution à nos énormes problèmes humains est un gouvernement mondial. Seul ce type de gouvernement peut apporter une paix et une stabilité réelles. » Force est de constater que les solutions humaines et les efforts humains pour mettre en place un tel gouvernement ont toujours échoué, lamentablement. La fameuse Société des Nations, fondée après la Première Guerre mondiale, n'a pas empêché la Deuxième Guerre mondiale, la guerre la plus horrible, la plus terrifiante de l'histoire de l'humanité, exterminant environ 50 millions d'êtres humains. Par après, l'ONU fut notre espoir. Mais depuis la création de l'ONU, les horreurs des guerres et de la souffrance n'ont pas cessé d'augmenter. Frères, le titre de mon sermon aujourd'hui, c'est « La grande réinitialisation de Dieu ». Mais avant de passer en revue le plan de Dieu, jetons un coup d'œil sur le plan actuel que les humains mettent en place pour établir la paix et la prospérité dans le monde. En ce moment même, à notre époque, le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, a écrit un livre qui a été publié en 2010. Le titre de ce livre, « La grande réinitialisation ». C'est un résumé de ce qu'il a prévu concernant la façon par laquelle le monde pourrait établir la paix mondiale à notre époque, selon lui. Le site web de l'Institut international du développement durable a écrit ceci à propos de ce livre et de ce plan. La grande réinitialisation représente un engagement de la part de ses membres, dont nous découvrirons bientôt l'identité, je vous en parlerai tantôt, à construire conjointement et de toute urgence les bases de l'économie mondiale et du système social pour un avenir beaucoup plus durable et résilient. Les Nations Unies ont publié ceci dans ce qu'ils appellent l'Agenda 2030. Ce n'est pas du tout un agenda secret. Il est publié et disponible sur Amazon. Il s'agit de la planification réelle, étape par étape, de la manière dont il prévoit établir un gouvernement mondial unique à notre époque. Un gouvernement mondial qui surveillerait les pays pour que les pays restent alignés tous ensemble. Chaque nation individuelle ne serait plus indépendante, faisant ses propres choses, sans avoir d'impact sur les autres. Un certain auteur a écrit l'analogie suivante à ce sujet. C'est comme si nous n'étions plus dans notre propre petit bateau, mais que nous étions tous sur un seul grand bateau de croisière. Ce qui va se passer à telle place va se répercuter ailleurs. En d'autres termes, nous serions tous dans le même bateau unique. C'est un plan global, mondial. Une autre organisation impliquée est le Fonds monétaire international, en abrégé le FMI. Les pays membres de cet organisme, y compris les États-Unis, y ont investi plus de 1 000 milliards de dollars. Ils comptent 193 nations du monde entier. Elles font toutes partie de ce Fonds monétaire international. Et elles se tournent vers lui en tant qu'organisme central et en tant que premier répondant aux urgences. En d'autres termes, lorsque ces pays membres rencontrent des problèmes, contrairement à une ville où c'est la police ou les pompiers qui interviennent d'abord, ici, c'est le Fonds monétaire international qui prend l'initiative. Présentement, c'est une dame qui en assume la direction. Celle-ci est l'une des personnes les plus puissantes de la Terre. Elle a écrit ceci. « Nous sommes optimistes et nous agissons, souvenez-vous de ça, pour construire un monde meilleur. » Elle parle d'une grande transformation. Déjà l'année dernière, 56 nations ont demandé l'aide financière du FMI. Ce qui me ramène à l'esprit le chapitre 22 du livre de Proverbes. Proverbes 22, verset 7, dit ceci. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Un cas concret pour vous donner un exemple. Ces pays renflouent les petits pays. Dans ce cas, il y a pour eux un prix à payer. Par exemple, si la Chine construit une route, elle exige en retour des droits miniers ou encore des accès et des droits aux ports, des droits portuaires. En d'autres termes, ces pays nantis offrent de plus en plus cette sorte d'aide qui n'est absolument pas gratuite. Il y a une raison pour laquelle ils le font. Ça va beaucoup plus loin qu'une simple préoccupation envers les pays plus pauvres. Ce phénomène se répète de plus en plus. Nous voyons ces grandes nations s'associer. Nous sommes témoins d'une situation où les dirigeants mondiaux s'associent aux chefs d'entreprise, aux organisations non gouvernementales, aux journalistes, aux activistes, aux dirigeants culturels, aux artistes et aux musiciens. En fait, tous collaborent pour faire avancer la vision des forums économiques mondiaux dans un effort mondial commun. Il n'y a pas un seul sujet dont on parle actuellement dans les journaux, dans les revues ou à la télévision. Il n'y a pas un seul sujet qui soit discuté qui n'aille pas dans le sens de la promotion du grand programme de réinitialisation établi par le Forum économique mondial. On le voit d'ailleurs dans la façon de désigner diverses réunions mondiales annuelles. Par exemple, la grande réinitialisation est le nom associé à la 50e réunion annuelle du Forum économique mondial qui s'est tenue en juin de l'année 2020. Elle a rassemblé des chefs d'entreprise et des dirigeants politiques de haut niveau sous la direction du prince Charles, en contact étroit et soutenu par Bill Gates et par d'autres milliardaires. Et bien sûr, par le Forum économique mondial. Le thème de cette conférence était la reconstruction durable de la société et de l'économie suite à la pandémie. Cela comprend des composantes essentielles de ce qu'on appelle la grande réinitialisation. L'une de ces composantes est l'établissement d'une économie complètement revisée dans une approche socialiste, se voulant bénéfique pour tous. Une autre composante est la construction d'un environnement résilient, équitable et durable, par le biais d'une gouvernance sociale qui intégrerait davantage de projets d'infrastructures politiques vertes, ce qui aurait pour but de stimuler les innovations de ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle. Je vais vous en parler un peu plus dans un instant. Mais en gros, la quatrième révolution industrielle est une fusion des systèmes numériques, physiques et biologiques pour votre bien. Il s'agit de domaines d'action clés, notamment la revitalisation de la science, la réinvention des incitations pour amener les gens à s'aligner, à être motivés de se soumettre à l'agenda, le rééquilibrage des investissements, afin que les gens investissent dans ce qu'ils appellent les investissements verts, encourageant les projets d'infrastructures qui sont, entre guillemets, verts. Vous remarquerez que ce terme revient souvent. Mieux reconstruire. J'ai même vu récemment ce slogan sur un grand panneau d'affichage lors d'un congrès d'un de nos partis politiques. C'est aussi le thème de la 51e réunion annuelle du Forum économique mondial de janvier. Ils ont mis en réseau 400 villes du monde entier pour les soutenir et soutenir leur plan. La grande réinitialisation était aussi le titre de la réunion annuelle du Forum économique mondial. Et c'était aussi le titre du sommet qu'ils ont tenu à Lucerne en mai 2021. J'ai mentionné plus tôt que je préciserai ce que sont ces quatre révolutions. Laissez-moi vous expliquer rapidement comment les historiens les considèrent. Ils considèrent que la première révolution est la révolution industrielle qui a été alimentée par l'utilisation de l'eau et de la vapeur, ce qui a vraiment augmenté la capacité de production. La deuxième révolution est la révolution électrique, l'utilisation d'objets mus par l'électricité, ce qui a conduit à la production de masse. La troisième est celle des technologies de l'électronique et de l'informatique, qui nous permet d'automatiser la production. Et la quatrième révolution industrielle dans laquelle nous sommes entrés aujourd'hui fusionne ensemble les caractéristiques physiques et les diverses technologies. Nous parlons maintenant de produire grâce à l'intelligence artificielle, à la robotique, aux véhicules autonomes, à l'impression 3D, à la nanotechnologie, à la biotechnologie, au stockage de l'énergie et à l'informatique quantique. Dans cette quatrième révolution, on assiste à un changement qui mène vers une monnaie centrale, entièrement numérique, permettant à ceux qui dirigent d'avoir un contrôle social. Nous savons que certains diront que tout ceci n'est qu'une grande conspiration. C'est une conspiration. Et le grand conspirateur, c'est Satan lui-même. Nous savons, d'après Apocalypse 12, verset 9, qu'il a trompé le monde entier. Il les a trompés. Dans Apocalypse 12, verset 9, nous lisons « Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » Ce grand séducteur a séduit les êtres humains, malgré qu'ils puissent être très sincères. Mais comme le mentionnait souvent M. Armstrong, on peut être très sincère et être séduit. Et ces individus peuvent aussi être sincèrement trompés. Ce que nous allons voir, mes frères, est quelque chose d'étonnant. L'Église avait compris depuis des décennies que l'Allemagne se réunirait et que le rideau de fer tomberait. Nous ne savions pas comment cela pourrait arriver. On savait que ça arriverait, et quand c'est arrivé, cela n'a choqué aucun d'entre nous. Nous savions depuis des années, et nous soupçonnions fortement, que la Grande-Bretagne se retirerait du marché commun, dans le cadre de ce qu'on appelle le Brexit. Et c'est arrivé. Frère, je suis ici pour vous dire que ce qui se passe en ce moment, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'apparition du livre Mein Kampf d'Adolf Hitler, qui révélait d'avance un plan mondial. C'est le même scénario qui apparaît aujourd'hui, avec ce livre La Grande Réinitialisation, et les activités du Forum économique mondial associé avec le FMI, les Nations Unies et ses partenaires. Il planifie un gouvernement mondial, et c'est déjà en cours de réalisation aujourd'hui. Nous savons ce que la prophétie dit à ce propos. Même en ce moment, nous pouvons voir le brouillard se lever et on voit ce qui va se passer. Pour ceux d'entre nous qui comprennent, ce ne sera pas une surprise, mais pour beaucoup, ce sera un choc total et une surprise totale. Allons plus loin pour en découvrir davantage concernant la grande réinitialisation. Le président exécutif du Forum économique mondial, Klaus Schwab, est apparu comme le leader qui dirige des nations et son organisation sur la réponse à donner à la pandémie de COVID et aussi sur les changements climatiques. Tout cela pour mettre en place une gouvernance mondiale centralisée et dirigée par des individus non élus. La grande réinitialisation pourrait être, et elle est d'une certaine manière, un changement de nom de ce que l'on appelle le nouvel ordre mondial, qui remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Même Winston Churchill utilisait le terme « nouvel ordre mondial ». La quatrième révolution industrielle implique de la surveillance technique, ce qui va transformer notre façon de vivre et d'interagir, et même ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Parce que la machine finira par fusionner avec les êtres humains. Cela aura donc un effet croissant sur nous. Pour ceux d'entre nous qui sont assez âgés pour s'en souvenir, John Lennon a écrit une chanson il y a 50 ans cette année, et c'est une chanson puissante intitulée « Imagine ». Permettez-moi de partager avec vous certaines de ses paroles. Je ne vais pas la chanter, je n'ai jamais été invité à chanter, mais je pense que la plupart d'entre vous se souviendront de cette chanson, car elle est toujours populaire. Il dit « Imaginez qu'il n'y a pas de pays, pas de nation individuelle. Ce n'est pas difficile à faire. pas de cause pour tuer ou pour laquelle mourir, et pas de religion non plus. Imaginez tous les gens vivant leur vie en paix. J'espère qu'un jour vous vous joindrez à nous et que le monde ne fasse plus qu'un. Imaginez, pas de possession, pas besoin d'avidité ou de faim. Imaginez une fraternité d'hommes. Imaginez tous les gens partageant le monde entier. Mes frères, on dirait une chanson qui parle du millénium. C'est un rêve, celui d'individus qui voient que ce monde ne peut plus continuer sans l'intervention, à un moment donné, d'un gouvernement prépondérant qui le contrôle. Les êtres humains font du mieux qu'ils peuvent et beaucoup d'entre eux sont très sincères. Eh bien, laissez-moi ici faire quelque chose qui est très difficile. Il n'est pas facile de se projeter dans l'avenir immédiat, et je parle des prochaines 8 ou 9 années, voire moins. Il n'est pas facile de prédire ce qui sera mangé, ce que signifie être un réfugié, comment nous allons organiser nos villes, d'où viendra notre énergie, ou ce que nous ferons concernant les réfugiés. Mais il y a des organismes qui se concentrent sur cela en ce moment même. En regardant ce qu'ils disent, cela peut vous donner une perspective nouvelle et choquante de ce que les leaders mondiaux planifient et mettent de l'avant actuellement. Les conseils globaux de l'avenir concernant ce qui est appelé l'agenda 2030. Remarquez que cette date 2030, c'est simplement dans 8 ou 9 ans. Ce n'est pas un programme pour dans 100 ans. Cette grande réinitialisation est un agenda déjà établi, réel, intitulé 2030. Et voici quelques-uns des points qui sont mis de l'avant par les politiciens du monde, les chefs d'entreprise, les banques du monde, les musiciens, les artistes et franchement, beaucoup d'autres individus aussi. Premièrement, tous les produits deviendront des services. Vous ne serez propriétaire de rien. Tout ce que vous ferez sera suivi et noté. On parle déjà ici aux États-Unis de faire en sorte que le suivi GPS détermine le coût de vos assurances, par exemple. Tout ce que vous ferez sera suivi à la trace. En dehors des villes, chez les gens qui vivront en marge de cela, il va y avoir beaucoup de mécontentement. Comme il le prévoit, nous allons avoir une société qui se divise en deux. D'un côté, les nantis et de l'autre, les démunis. Les nantis seront ceux qui auront tout ce dont ils ont besoin, mais ils ne posséderont rien. Et vous savez ce qu'ils disent? Vous en serez heureux. Déjà ici, aux États-Unis, 20% des maisons en location sont achetées par des sociétés pour les relouer. Les maisons qui sont ainsi vendues sont ensuite remises en location pour augmenter le nombre d'individus qui loueront plutôt que de posséder. Le système de libre entreprise ne sera plus valide, car tout sera sous contrôle. Deuxièmement, la domination des États-Unis sera terminée. À l'heure actuelle, nous avons une poignée de nations de puissance mondiale, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Allemagne, l'Inde, le Japon. Il va y avoir un grand nivellement de toutes ces nations et les États-Unis ne seront plus la superpuissance. Cela me rappelle Lévitique 26, verset 19. Lévitique 26, verset 19. Ce qui doit arriver a été prophétisé avec précision. Il est écrit « Je briserai l'orgueil de votre force ». Puis Dieu décrit les autres malédictions qui devaient arriver si nos nations n'obéissaient pas à Dieu en rompant l'alliance avec lui. Ce qui va se passer c'est la chute de ces nations puissantes et la montée en puissance des nations du tiers-monde. Il y aura donc une grande équité. Quatrièmement, l'ensemble du système de santé va totalement changer. Il va devenir numérique. Et ce que nous voyons déjà, vous pouvez le croire, il prévoit qu'il y aura moins d'accidents grâce aux diverses voitures à conduite autonome. Il va y avoir un grand progrès dans la prévention et dans la médecine personnalisée. Il va y avoir de minuscules robots utilisés en médecine et en chirurgie. C'est déjà en marche. C'est tout simplement incroyable. Et voici un exemple qui m'a impressionné. Vous avez entendu parler de l'impression 3D. Présentement, ils travaillent sur l'impression d'organes de corps humain fait avec une imprimante 3D. Il s'agit donc là d'une fusion du monde physique, numérique et biologique. J'ai une montre intelligente ici. Elle est intelligente parce qu'elle me dit quel est mon niveau d'oxygène, mon rythme cardiaque. Elle m'indique ma tension artérielle, mon électrocardiogramme et ma température corporelle. Il n'y a qu'un pas très court à franchir pour que tout soit transmis à un centre de données. Il y a 15 ans, j'ai fait affaire avec une entreprise de sécurité à New York. On m'a dit qu'il n'y avait pas une seule journée à New York à ce moment-là où votre reconnaissance faciale ne soit pas captée au moins 10 fois. À Londres, où j'ai discuté avec le responsable de la sécurité, avant une grande exposition mondiale, il y avait un événement spécial qui allait se produire, un grand tournoi sportif. Ah oui, c'était le jeu du Commonwealth, les Jeux du Commonwealth. Il m'a parlé de l'énorme système de reconnaissance faciale qui était déjà en place à Londres, et c'était il y a une dizaine d'années. La Chine a déjà un système de reconnaissance faciale qui couvre une grande partie de son pays et qui s'étend davantage. Mes frères, ce n'est pas quelque chose qui se situe dans un futur lointain. Ça fait exactement partie du plan dont je vous parle. Numéro 5. Nous mangeons beaucoup trop de viande. Beaucoup trop de viande. Nous avons maintenant des fermes gigantesques. Le plus grand propriétaire de fermes aux États-Unis, c'est Bill Gates. C'est aussi lui qui est à l'origine de la viande artificielle, souvent faite à base d'insectes. C'est censé être plus sain ou meilleur pour nous. En réalité, c'est plus rentable financièrement. Toute cette promotion du véganisme est décrite dans 1 Timothée 4, verset 3. Dieu a prédit qu'il y aurait tout un mouvement d'individus en faveur du véganisme. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a des avantages pour certaines personnes, mais il y a des nutriments dont votre corps a besoin que vous ne pouvez tout simplement pas obtenir par cette voie. Le véganisme me rappelle l'histoire d'une tribu indienne dont je me souviens quand j'étais à Londres. Les gens de cette tribu étaient arrivés à Londres depuis un certain temps. Je ne parle pas de végétaliens, je parle de vrais végétaliens. En arrivant, ces gens étaient en bonne santé, puis ils ont commencé à tomber malades. Ils mangeaient tous la même nourriture. Ils ont fini par découvrir que la raison pour laquelle ils tombaient malades était que les produits qu'ils avaient en Inde étaient couverts d'insectes, alors que ceux qu'ils avaient en Angleterre n'en avaient pas. Ils obtenaient auparavant les nutriments nécessaires par les insectes. Avec toutes ces pressions, nous allons voir de grands changements dans nos méthodes agricoles. Numéro 6. Le problème des réfugiés que nous avons. Cela affecte tout le monde. Il y aura des frontières ouvertes. La crise des réfugiés et toute l'agitation qu'elle provoque vient des changements climatiques. Nous devons donc être prêts à ouvrir nos frontières, à fusionner tous les peuples en un seul. Cela nous rappelle le chapitre 11 de la Genèse. Genèse, chapitre 11, verset 6. Où l'on voit que c'est exactement le plan que les humains avaient élaboré à la tour de Babel, après le déluge. Genèse, chapitre 11, verset 6, dit ceci. Voici, ils forment un seul peuple et ont tous la même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. En poursuivant la lecture, vous pouvez voir que Dieu les a dispersés pour qu'ils ne soient pas tous ensemble dans le même lieu. Qui a inspiré Nimrod? Ce n'est pas Dieu. Le Tout-Puissant les a plutôt inspirés à se séparer et à se déplacer selon leurs propres groupements familiaux dans le monde entier, formant des groupes linguistiques distincts pour qu'ils ne soient plus qu'un seul groupe. Néanmoins, c'est encore ce que le grand conspirateur a à l'esprit, unifier le monde pour que tous puissent être contrôlés. Numéro 7, et ce n'est pas surprenant, cela fait aussi partie du plan qu'il développe. Les valeurs qu'ont construit l'Occident devront être remplacées. Cela signifie vraiment que d'ici 2030, les valeurs traditionnelles judéo-chrétiennes devront être éliminées. C'est d'ailleurs le but du mouvement pour retirer les 10 commandements des lieux publics, par exemple, et pour présenter la Bible comme étant politiquement incorrecte. Nous voyons que c'est de la grande science que viendront les réponses sur ce qu'est la valeur de la vie humaine, sur les grandes questions de la vie. Et tout cela est promu par le Club de Rome. Laissez-moi vous lire ceci. Le Club de Rome encourage la compréhension des défis mondiaux auxquels l'humanité est confrontée. Cela semble tellement merveilleux. Et c'est un groupe de réflexion composé de tous ces individus, scientifiques, hommes d'affaires, politiciens. C'est un groupe de réflexion qui les a tous rassemblés. Et comme le Forum économique mondial, c'est un modèle de gouvernance mondiale, un modèle de gouvernement mondial dirigé par une élite technocratique. Pour amener les populations à s'unir dans un combat concerté contre un ennemi commun. Et cela, soit dit en passant, nous ramène à l'Église catholique romaine avec son plan de 7 ans dans sa recherche d'un ennemi commun contre lequel créer l'unité. Pour y arriver, l'idée dans tout ça, c'est d'utiliser la pollution, la menace du réchauffement de la planète, les pénuries d'eau et les famines. En d'autres termes, ils ne veulent pas gaspiller la présente crise, mais l'utiliser à leur fin. Le récit de la menace du changement climatique a été inventé dans le seul but de pouvoir mettre en place un programme de démographie mondiale sans susciter de résistance excessive. Frères, des individus profitent de la crise pour susciter chez les gens la peur, l'anxiété et finalement la panique, pour les amener à renoncer à leur contrôle de soi, à leur indépendance, pour le bien commun. Tout ça est orchestré au niveau mondial. Ainsi, ils peuvent avoir un monde qui soit vert, un développement durable, l'égalité raciale, l'inclusion, la justice climatique, une meilleure construction, la grande transformation de la réinitialisation, la quatrième révolution, le nouvel ordre mondial. Ce sont là leurs expressions favorites. Et elles parlent toutes de la même chose, l'intention de l'homme de se gouverner lui-même pour sauver le monde. En novembre 2021, les Nations Unies organisent une conférence pour trouver la cause du changement climatique et pour développer et accélérer les solutions. Et pourtant, c'est le visage public d'un effort de 10 ans pour assurer la survie d'un programme très ancien. Frère, ce n'est pas nouveau pour nous. Nous l'avons vu au cours de l'histoire. Mais regardez ce qui se passe en ce moment, en rapport avec ce que les prophéties de Dieu nous disent et qui est sur le point de se réaliser. Comprendre cela peut nous aider à comprendre ce que Jésus-Christ a dit dans Jean 16, verset 1. « Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Le Christ nous a dit de surveiller ce qui se passe et d'en être conscient afin que ça ne tombe pas sur nous comme une sorte de piège. Il ne faut pas être pris par surprise. J'ai été inspiré par un rapport que le docteur Wilner Pierre m'a donné concernant les frères en Haïti. Ce à quoi je vais me référer remonte à l'époque de M. Appartien. Un jour, M. Appartien a demandé à certains des frères en Haïti ce qu'ils pensaient de manquer certains des luxes que d'autres pays ont. Voici, je crois, ce qu'ils ont répondu. « Eh bien, M. Appartien, comment pouvons-nous manquer ce que nous n'avons jamais eu? » Et leur attitude habituelle, avec l'ouragan qu'ils ont traversé, et ensuite le tremblement de terre massif, c'est qu'ils se serrent les coudes. C'est exactement ce que le Christ a dit qu'il se produirait à la fin des temps, où l'on reconnaîtrait le peuple de Dieu au fait qu'ils s'aiment les uns les autres, au lieu de se rassembler en gangs opposés, comme nous le lisons dans Matthieu 24, « Nation contre nation ». Le mot « ethnos » dans ce contexte signifie qu'un groupe ethnique s'en prend à un autre groupe ethnique pour prendre, pour profiter ou simplement pour tenter de survivre. Ses frères en Haïti peuvent voir ce qui se passe dans une perspective biblique et ils comprennent, mais beaucoup de nos concitoyens, surtout dans les pays nantis, semblent en être totalement inconscients. Nous avons récemment vu ce que nous appelons les flocons de neige, des gens qui fondent tout simplement lorsqu'ils rencontrent des problèmes ou des difficultés. Cela ne va pas arriver au peuple de Dieu, car nous allons savoir ce que Dieu dit. Voyons maintenant les résultats de cette grande réinitialisation. Dans Ésaïe, chapitre 59, versets 8 et 9. Ésaïe 59, versets 8 et 9. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Les êtres humains ont essayé, mais ils ont été inspirés à ignorer la voie, la seule voie qui mène à la paix. Et à cause de cela, nous lisons dans Romains, le chapitre 3, commençant au verset 16. Romains, chapitre 3, verset 16. La destruction et le malheur sont sur leur route, et ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Frères, voici pourquoi, en dépit de tous les efforts et en dépit des investissements d'argent massifs, tout cela ne donne pas du tout les résultats attendus. Pas du tout. Jérémie, chapitre 6, verset 14. Jérémie, chapitre 6, lisons le verset 14. « Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. » Dans son plan, Dieu nous a donné la terre pour qu'on en prenne soin. Mais les êtres humains, dans une large mesure, l'ont gâché, abîmé. Ils détruisent ce que Dieu nous a donné. L'idée de vouloir être capable d'arrêter de faire du mal à la terre n'est pas un concept négatif, mais c'est là un seul élément du problème. Car il n'y a vraiment pas de paix du tout. L'une des écritures les plus puissantes pour résumer le résultat de cette grande réinitialisation se trouve dans Apocalypse 18. Apocalypse 18, à partir du verset 9. Voici le résultat. Après les 2 ans et demi de la détresse de Jacob, où nos nations israélites, principalement les descendants d'Éphraïm et de Manassé, seront plongés dans ce qui est appelé la grande détresse de Jacob. Ce sera un temps de famine, de peste et de captivité, un temps de grande souffrance. Mais ensuite arrivera, comme nous l'avons vu à la fête des trompettes, le jour du Seigneur. C'est le moment où Jésus-Christ reviendra et dira « C'est assez, c'est assez. Vous avez eu 6000 ans pour tout gâcher. Cette période accordée aux humains est maintenant arrivée à son terme. » Ce que nous lisons ici décrit ce qui va arriver à ce moment-là. C'est un résumé de la façon dont cette grande réinitialisation humaine va se terminer. Verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe. Il n'est pas ici question de fornication physique, il parle du mélange de religion, politique et économie pour vivre luxueusement. Ils pleureront et ils se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant éloignés dans la crainte de son tourment. Ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle. Parce que les choses allaient si bien jusque-là, dans ce monde basé sur une économie mondiale unifiée. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Verset 12. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine. Et voyez ce que dit le verset 13 ensuite. De corps et d'âme, d'homme. Réalisez-vous que des parties de corps humains sont actuellement l'objet d'un important commerce dans le monde au moment où je vous parle? J'ai entendu dire qu'en Chine, des criminels sont exécutés dans le but de récupérer des parties de leur corps pour les vendre. Cela se passe aussi à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, où l'on prend une jeune personne pour ensuite la vendre afin de récupérer des parties de son corps, ce qui est plus payant que la simple traite des êtres humains. Il y a plus d'esclavage dans le monde aujourd'hui qu'il y a 200 ans. Il y a en Guadeloupe un musée très intéressant, construit par les Français. Il s'appelle le Musée de l'esclavage. Il montre comment pratiquement toutes les nations, toutes les tribus du monde ont été impliquées dans l'esclavage. Il est donc question dans ce verset-là de la vente de parties de corps humain. Mais regardez ce qu'il y a d'autre. En plus des parties du corps, il est question aussi de commerce d'armes d'hommes, l'esclavage. L'esclavage sera un élément majeur de ce qui rendra cette économie mondiale tellement prospère. Ces esclaves seront des Israélites et d'autres qui ne céderont pas au système. Ils vont être capturés et réduits à l'esclavage, au grand bénéfice et au grand profit de cette société nouvelle. Mais la moralité de celle-ci aura totalement disparu. Quand nous lisons ces prophéties en considérant tout ce qu'elles impliquent et ce qui va arriver, c'est une fin terrible concernant ce rêve d'un gouvernement mondial humain. Tout semblait aller si bien durant 2 ans et demi, puis tout s'est effondré pour ces marchands devenus extrêmement riches. Maintenant, ils se tiennent à l'écart, ils gémissent et ils pleurent parce qu'ils voient la ruine totale de leur système. Cela me rappelle aussi 2 Pierre 2, verset 19. Qui dit qu'alors qu'ils promettaient la liberté, ils sont eux-mêmes devenus esclaves de la corruption. Toutes ces promesses visant à rendre le monde meilleur, plus sûr, plus propre, plus équitable, un monde meilleur inspiré par le raisonnement humain et la technologie, toutes ces promesses ont eu comme résultat final l'esclavage, la misère et non la paix. Allons à Amos, le chapitre 3. Amos, chapitre 3. Quelque chose que nous devons vraiment comprendre. Amos 3, verset 7. C'est l'une des énormes bénédictions d'être dans l'Église de Dieu et de savoir où Dieu travaille, d'être parmi ceux à qui il a donné de comprendre ce qui se passe, mes frères. C'est formidable. Verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc Dieu va nous faire savoir, vous et moi, ce que nous aurons besoin de savoir, quand nous aurons besoin de le savoir. Dans Éphésiens 4, versets 11 à 15, Paul écrit que Jésus-Christ lui-même nous a donné l'Église C'est lui qui a désigné ses ministres pour qu'ils nous enseignent et que nous ne soyons pas ballottés à tout vent de doctrine pour notre perfectionnement. Frères, quand on vous a imposé les mains, vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ pour qu'il prenne soin de vous à travers ses serviteurs, les ministres. Le Christ sait ce qu'il fait et il savait ce qu'il faisait quand il vous a appelé. J'aime la façon dont M. Meredith l'expliquait, de même que M. Ames qui était récemment avec nous. Cela me rappelle vraiment que le peuple de Dieu est totalement conquis. Si Dieu dit une chose, nous le croyons. Nous voulons faire la volonté de Dieu, non pas la nôtre. Nous n'avons pas besoin de paniquer. Nous comprenons ce que disent les Écritures. Nous comprenons que Dieu a promis de ne jamais nous laisser tomber, de ne jamais nous abandonner. Il nous a aussi donné un ministère. Et il a promis qu'il nous ferait savoir ce que nous devons savoir au moment où nous devrons le savoir. C'est de cela dont nous avons parlé durant la fête. Allons à Ésaïe 9, verset 6, un verset qui explique que l'entière responsabilité du gouvernement mondial divin reposera sur les épaules du Christ, le prince de la paix. Donnez à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. En d'autres termes, Jésus-Christ reviendra bientôt pour accomplir sa grande réinitialisation. La grande réinitialisation de Dieu. Voilà ce qui le motive, ce qui motive également ceux qui se soucient de l'œuvre de Dieu. Nous nous soucions de ce dont Dieu se soucie. Nous sommes zélés à ce sujet. Nous en sommes passionnés parce que Dieu appelle encore certaines personnes en ce moment. Et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir parce que nous avons le même esprit que Jésus-Christ. Nous nous soucions de l'humanité. Non seulement nous voulons être là, nous ne sommes pas appelés seulement pour notre salut personnel, mais nous voulons être là pour aider les autres êtres humains. Nous voulons travailler sous Jésus-Christ parce que nous aimons le gouvernement de Dieu. Nous l'aimons. En plus, nous en vivons. Et plus nous en vivons, plus nous l'aimons. Nous faisons confiance à Jésus-Christ pour prendre soin de nous et nous guider dans sa voie. Nous ne voulons plus faire les choses à notre façon. Continuons maintenant en allant à Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, versets 3 à 5, ce sont des écritures connues qui ont peut-être déjà été lues au cours de la fête. Ésaïe chapitre 11, commençant au verset 3, « Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. » Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Pas seulement les élites, mais les misérables, les laissés pour compte. Pas seulement les puissants, mais les petits, les gens tout simples. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Pendant la fête, nous avons sûrement lu la prophétie de ce qui adviendra du loup et de l'agneau et comment un petit enfant conduira le lionceau et le bétail. Le verset 9 nous révèle ceci. « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Cela est répété dans le livre d'Habacuc chapitre 2, verset 14. La voix de Dieu ne sera plus cachée aux yeux des hommes. Ils sauront comment vivre selon la voie divine. Je me rappelle quand Dieu m'a appelé en 1964-1965. Je me suis simplement agenouillé et j'ai dit, « Père, j'ai juste besoin de savoir si tu existes. Et j'ai besoin de savoir si, oui ou non, tu as une voie de vie. » Puis, je suis allé au collège ambassadeur, sans même savoir si Dieu existait vraiment. Et vous savez, mes frères, avant mon baptême, je me souviens avoir dit à Dieu, « Père, j'ai prouvé ton existence, j'ai prouvé ta façon de vivre, et je vais vivre de cette façon jusqu'au jour de ma mort. » C'était il y a 57 ans. Frère, je suis rempli de zèle, parce que j'ai vu les résultats du mode de vie de Dieu. J'ai hâte de voir les humains du monde découvrir à leur tour les résultats du mode de vie de Dieu. Allons au chapitre 19 du livre de Luc, Luc 19 au verset 17. J'ai donné un sermon récemment, le jour des trompettes. Luc 19, verset 17. Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Frère, l'autorité que Dieu va nous donner, c'est dans le but d'aider et de servir les autres, pour les aider à voir et à comprendre ce que nous sommes arrivés à voir et à comprendre. C'est une bénédiction extraordinaire que nous soyons tous appelés à être des dirigeants. Nous serons parmi ceux qui se tiendront avec le Christ, qui sont mentionnés dans Apocalypse 14. Il est écrit qu'il s'agit des prémices, les premiers fruits, ceux qui suivront le Christ où qu'il aille. Ces mêmes individus accompagneront Jésus-Christ lorsqu'il reviendra pour mettre en place son gouvernement, son royaume. Ces individus connaissent, font confiance et aiment la voie de vie de Dieu et son gouvernement. Dans Apocalypse 5, versets 9 et 10, Dieu dit que ceux qui sont appelés deviendront des rois et des enseignants et qu'ils régneront sur la terre. C'est le but de notre appel. Nous ne sommes pas appelés seulement pour être sauvés personnellement. Nous sommes appelés en vue d'aider les survivants de la grande détresse, ces gens qui auront été réduits à l'esclavage. Ils auront été humiliés, abusés, brisés. Apocalypse 11, verset 15. Apocalypse 11, verset 15 décrit un événement qui va se passer au début du millénium. Le septième ange sonna de la trompette. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Oui, et nous serons là, vous et moi. Ce ne sera pas un congrès des élites du monde. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur le sujet, mais ces individus dont je vous ai parlé parlent de contrôler la population du monde. Mais ce n'est pas pour le bien des populations, c'est plutôt pour leur propre profit, c'est pour eux-mêmes. C'est un autre sujet. Mais nous allons être là et nous allons avoir la puissance de Dieu, l'Esprit même de Dieu, pour servir les autres. Dans Michée 4, verset 2 à 4, il est écrit que nous allons pouvoir aller vers ces individus et dire « De vos épées, forgez des outils agricoles. Vous n'aurez plus peur, vous n'aurez plus d'anxiété ni de panique. Ce qui, soit dit en passant, était orchestré pour créer une réaction insensée de masse. J'ai couvert cela ailleurs dans des sermons précédents. Quand les êtres humains commencent à prendre panique sous l'anxiété et la dépression, ils perdent contrôle et ils s'effondrent. Ils tentent alors de s'accrocher à n'importe quoi. Ils prennent toutes les issues imaginables. C'est ce qui s'est passé en Allemagne au 16e et au 17e siècle avec les innombrables meurtres de supposées sorcières. Dans certains villages suisses, les femmes ont pratiquement toutes été tuées. C'est arrivé également dans beaucoup d'autres parties du monde. Il y a donc eu ces énormes et massives éliminations d'êtres humains. Devant cela, les gens se rassemblaient en foule de spectateurs, abandonnant toute moralité et ce qu'ils avaient comme principe personnel. De tels phénomènes peuvent être orchestrés et stimulés. Allons à Amos maintenant, le livre d'Amos, chapitre 9, verset 14. Voyons ce qu'il nous dit. Ce sont les paroles de Dieu. « Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. » Dieu va encore travailler avec Israël. Ils ont tout gâché, bien sûr. Ils ont rompu l'alliance, oui. Dieu a maintenant appelé des Israélites spirituels. Vous et moi. Ceux-là, les Israélites spirituels que nous sommes, seront avec le Christ quand il reviendra. Mais il y a aussi les Israélites physiques que Dieu va ramener et ils vont construire des villes. qui seront en ruine. Ils vont y vivre. Ils vont posséder des vignes, des fermes. Ils pourront profiter de leur production. Ce ne sera pas du socialisme. Ils auront aussi des jardins. Ils en mangeront les fruits eux-mêmes. Ça n'appartiendra pas au gouvernement. Dieu les amènera sur leur terre et ils ne seront plus arrachés de cette terre que Dieu leur aura donnée. Ce sera un système de propriété privée. C'est décrit dans Jérémie 31, verset 8. Voici, je les ramène du pays du septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle, le boiteux. Ils seront désespérés. Mais le Tout-Puissant va leur donner un espoir pour le futur. Et puis, les enfants de certains d'entre nous reviendront à leurs propres frontières, leurs propres terres. Il y a une écriture dans Ésaïe qui dit que dans ce nouveau monde en développement, les enfants vont avoir besoin de plus de place, plus d'espace. Nous allons les établir et le faire correctement cette fois. Maintenant, lisons Ésaïe chapitre 14, versets 1 à 3. Dieu dit qu'il va installer les Israélites dans leur propre pays. Il leur donnera du repos, libération de leur douleur et de leur peur et de leur dure servitude. Toute la terre se reposera et sera calme, en paix. Ésaïe 30, verset 19 dit que ces gens ne pleureront plus. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. En d'autres termes, il n'y aura plus de famine de la parole. Nous pourrons nous matérialiser et dire non, nous avons essayé ce que vous voulez faire. Ça ne fonctionne pas. Laissez-moi vous montrer la bonne façon de procéder. Voici le chemin à suivre. Marchez-y. Matthieu 24, verset 22 dit que le monde entier arrivera à un point où il serait totalement détruit si Dieu n'intervenait pas. Le facteur déterminant, ce sera vous. Si ce n'était des élus, il ne resterait aucun être humain en vie après cette grande réinitialisation humaine. Sa grande faiblesse, c'est qu'elle n'a pas été capable de changer la nature humaine, qui a été inspirée, comme on le voit dans Éphésiens 2, au verset 2, par le prince de la puissance de l'air, le petit Dieu de ce siècle. Ésaïe 35, le verset 5, « Les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds entendront. Les gens seront guéris. Un nouveau système médical sera en action. » Oui, appelé la guérison. Vivre selon la voie divine. Oui, il va y avoir une grande transformation, une grande réinitialisation. Et pas seulement pour les Israélites, mais pour tous les peuples. Parce que nous lisons dans Ésaïe qu'il rassemblera toutes les nations viendront à comprendre la voix de Dieu. Pour résumer, en terminant, tournons au dernier verset dans Actes. Les nations vont comprendre la voix de Dieu et la mettre en application. Alors, en terminant, allons à Actes, chapitre 3, s'il vous plaît, verset 21. Un passage très simple qui dit ceci, « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. » Vous réalisez, mes frères, que c'est la fin. C'est la fin des 6000 ans où les êtres humains ont fait leur propre chose malheureuse, malgré leur sincérité. Avec votre aide, Jésus-Christ va restaurer son mode de vie de paix et de prospérité. Il y aura un nouveau système éducatif, et ça va commencer à la maison. Il va y avoir une nouvelle agriculture, de nouveaux bâtiments, un nouveau jardinage, des voyages. Plus de politiques corrompues, plus de scandales d'entreprises, plus de gens qui profitent des autres. Plus de tensions raciales, des femmes libérées pour remplir le rôle que Dieu leur a donné. Les gens ne seront plus coupés de la nature, ils vivront dans des communautés semi-rurales, en contact avec la terre. Il n'y aura plus de fermes démesurées, propriété de Bill Gates, avec une approche contraire à la conception originelle de Dieu pour les humains. Tous les métiers et tous les enseignements seront pour l'amélioration de l'humanité, axés sur la voie de donner et non sur la voie de prendre. Chaque être humain sera inspiré et motivé pour se préparer à entrer dans la famille de Dieu. Frère, ce sera la réalisation du rêve de John Lennon. Imagine. Imagine se réalisera. Imaginez tous les gens partageant le monde de Dieu, un monde de paix. Imaginez tous les gens avec la vraie religion. Imaginez tous les gens prenant soin de leurs frères et de leurs sœurs. Imaginez tous les gens vivant à la manière de Dieu. Et c'est ce que nous faisons ici, à l'occasion de cette fête des tabernacles qui représente le monde de demain. Si vous voulez en savoir plus sur cette grande réinitialisation, vous pouvez lire l'article de M. Weston dans Le Monde de demain de janvier 2021 et aussi l'article de M. Dexter Wakefield, je crois que c'est sur l'édition de mars 2021 intitulée « Êtes-vous prêt pour la grande réinitialisation ?» Frère, la question qui se pose, voulez-vous y être ? Êtes-vous prêt pour cette grande réinitialisation ? La vivons-nous maintenant dans nos propres vies? Avons-nous faim et soif d'elle? Sommes-nous zélés pour elle? Est-ce que nous l'envisageons? Est-ce que nous nous voyons avec Jésus-Christ mettant en place cette grande réinitialisation de Dieu?